Bonjour à tous. Bienvenue à l'église de Sentier. Je ne sais pas si vous lisez les nouvelles, mais bon, ça me semble que c'est vraiment pas rose dernièrement. Je lisais la semaine dernière un article dans une revue qui expliquait tout le phénomène des réfugiés à travers le monde et ceux qui exploitent toute la question des réfugiés, qui prennent le bateau, qui sur le dos finalement des gens qui sont pauvres et démunis. Pour défrayer des coûts, pour essayer de se sauver de leur pays, qui est parfois très dangereux. On entend les nouvelles dernièrement avec tout ce qui se passe avec les fugueurs, les fugueuses. On pense aux injustices, la cruauté dans le monde. Et vous avez entendu toute cette vague de fugues dernièrement. C'est assez incroyable. Et surtout, ceux qui profitent de ces gens-là, qui veulent faire du trafic humain, et puis ça se déroule devant nos yeux. Il y a des profiteurs qui se tiennent même tout près des centres jeunesse et puis des proxénètes qui veulent exploiter toute la question sexuelle, faire de l'argent. Mais je lisais un article hier que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que tu regardes toutes les mauvaises nouvelles de la société et tout ça, et les gens réfléchissent, regardent vraiment ce qui se passe dans le monde et tout le mal, la cruauté, la violence et tout ça qui se passe dans le monde. Puis les gens essaient de comprendre ce qui se passe dans la société. Mais hier, il y a eu justement un bel article, très court, mais c'est dans la section Opinion du Journal de Montréal, Mathieu Bock-Côté, qui est un sociologue. J'aime bien lire Mathieu de temps en temps, qui donne des bons commentaires. C'est une belle lecture de la société, parfois. Et hier, il trouvait ça assez pertinent. Et voici comment est-ce qu'il analyse la société, et surtout avec ce qui s'est passé, cette vague de fugues dernièrement, et voici ce qu'il dit. L'article s'intitulait, il a appelé ça « La prostitution comme idéal ». Chacun a été bouleversé par le récit de ces jeunes filles qui, l'une après l'autre, fuguent pour aller se perdre dans la prostitution. Elles iront faire la fortune de leur souteneur, qui se fait souvent passer pour leur copain. Elles sont apparemment attirées par les promesses de belles fringues et un mode de vie de star. Leur imaginaire est empoisonné par le mythe d'une réussite facile. Nul ne mettra le blâme sur la victime. Leur sort est tout simplement abject. Ce sont les petites ordures qui les recrutent qu'il faut pourchasser. Mais comment ne pas voir là une manifestation terrifiante du matérialisme qui avilit notre civilisation? Comment ne pas voir que l'attrait que certaines peuvent ressentir pour une telle vie en dit énormément sur le cancer moral qui ronge notre monde. Pourtant, cette réflexion semble pour l'instant esquivée. Notre réflexe étatiste, dans ce qu'il a de plus abrutissant, nous pousse vers une question obsédante. Qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire pour empêcher cela? On veut que ça soit de sa faute. On part d'un plan d'action. On se tourne vers une réponse technocratique. C'est court. Cela témoigne même d'une stupéfiante étroitesse d'esprit. Car nous ne sommes pas devant un problème d'abord politique ou administratif, mais culturel et spirituel. Cela ne veut pas dire que les services sociaux n'ont pas une mission dans les circonstances, mais on ne saurait s'en contenter. Une question plus profonde doit se poser. Quel modèle de réussite notre société offre-t-elle aux jeunes? Un adolescent a besoin d'idéal et d'absolu. Il a besoin aussi de structures et de parents qui disent non. Mais si nous le condamnons à un mode de vie, à un monde vide, soumis à la frénésie consommatrice, dominé par la célébrité facile et l'industrie pornographique, il risque de se perdre. Bock n'offre pas la réponse, mais il nous pointe certainement dans la bonne direction, sur la bonne question à se poser. Il y a un problème, il le dénote. Notre monde est en train de se faire ronger par un cancer moral. Nous ne sommes pas, dit-il, devant un problème qui est d'abord politique ou administratif, mais il est culturel et spirituel. Oui, nous sommes devant un problème spirituel. Et c'est ça qui est en arrière du problème. Il dit le problème est moral et spirituel. Mais voici ce qu'il dit, on ne veut pas l'entendre. Il dit cette réflexion semble pour l'instant esquivée. On fuit la vraie question, la source. Mais quand on prend la parole de Dieu, on ne veut pas penser au problème de fond. Mais quand on prend la parole de Dieu ne fuit pas le problème. Nous sommes en face à face avec le problème de ce monde, le cancer moral qui ronge notre société. Et la Bible, la parole de Dieu, y fait face et donne aussi une solution. La Bible nous demande d'y penser. C'est vraiment intéressant comment Dieu va faire ce rappel au peuple d'Israël. Il y a bien longtemps, le peuple d'Amalek a livré une guerre au peuple de Dieu avec Moïse et Josué, les enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il appelle Josué. Et on lit cette histoire dans Exode 7, et voici ce qu'on lit. « Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Et lorsque Moïse levait le bâton, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes et de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'un de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple. Avec le temps, Amalek est devenu le symbole du combat spirituel. Si bien qu'un jour, Dieu dira dans Deutéronome, « Tu te souviendras d'Amalek. » Voyez-vous, ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire au peuple d'Israël qu'ils ont besoin de ne pas esquiver le mal dans ce monde, ce combat spirituel qui se livre, ce combat moral qui se livre depuis bien des années. Il veut qu'on y fasse face et qu'on livre la bataille. Mais cette bataille va se livrer à genoux dans la prière comme Moïse qui priait et intercédait et grâce auquel il a eu la victoire avec tout son peuple. Lorsque Dieu dit « Souviens-toi d'Amalek », il nous rappelle à ne pas fermer les yeux devant ce combat spirituel qui est autour de nous. Il y a un combat spirituel et nous avons besoin de livrer cette bataille. Et tout comme Moïse a eu la victoire contre l'ennemi en élevant le bâton au ciel vers Dieu et qu'il priait, Jésus aussi fut élevé pour remporter la victoire lorsqu'il a été sur la croix en sacrifice pour nos péchés. Et il s'est offert pour prendre sur lui nos péchés afin que nous puissions avoir le pardon de nos fautes et avoir la vie éternelle en plaçant notre foi en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle et nous voulons répandre cette bonne nouvelle. C'est la solution au cancer moral de notre société. Les gens ont besoin de Jésus. Et si nous voulons voir la société changer complètement, on a besoin justement d'intercéder, prier, que Dieu puisse faire un réveil spirituel dans notre nation, dans notre pays. Si nous voulons voir notre société guérir, changer par la puissance de Dieu, vous et moi, on a besoin de nous unir dans un mouvement de prière et intercéder afin que Dieu puisse donner la victoire. 1 Jean 4,4 dit ceci, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Lorsque des chrétiens sont allés dans la ville de Thessalonique, ils ont proclamé la parole de Dieu. Ils ont été accusés par les gens. Regardez bien l'accusation des chrétiens dans Actes 17. Il dit, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Mes chers amis, c'est ce qu'on veut. On veut bouleverser le monde, on veut bouleverser notre société par la puissance de l'Évangile. Des villes et des pays ont connu de profonds changements lorsque Dieu est intervenu et qu'il a causé un réveil spirituel. Lorsqu'on regarde les spécialistes dans l'histoire de l'Église, retracent l'histoire de l'Église, ils ont vu des grands mouvements spectaculaires où Dieu est intervenu et a changé littéralement la société. Je pense par exemple dans les années 1700, où dans une ville où il y avait 300 000, dans une région où il y avait 300 000 habitants, plus de 50 000 personnes sont venues au Seigneur Jésus-Christ en l'espace de 2 ans. Imaginez, c'est 18 % de la population qui s'est convertie à Jésus-Christ en l'espace de 2 ans. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait ici, dans tout l'Outaouais, où il y a peut-être quoi, 380 quelques mille personnes dans toute la région de l'Outaouais, si 18 % en dans 2 ans venaient à Jésus-Christ? Ça représente plus de 60 quelques mille personnes qui se chercheraient une église. Pensez-y, il y aurait 10 000 ou 15 000 personnes qui attendraient dans le stationnement en arrière le dimanche matin. Mais Dieu l'a déjà fait dans l'histoire. Ne soyons pas étonnés. Dieu l'a déjà fait à travers l'histoire. On se rappellera quelques années plus tard, il y a eu un autre mouvement, un gros réveil, où des chrétiens ont commencé et ça allait vraiment pas bien dans la société. Et des chrétiens ont fait des réunions sous des tentes dans la forêt et les chrétiens se rendaient dans la forêt et ils prêchaient la parole et il y avait des gens qui venaient de partout pour écouter le message de l'Évangile. Et des gens se sont convertis, ça a été un bouleversement dans la société. Quelques années plus tard, il y avait beaucoup de violence dans la ville de New York. C'était la débauche, ça allait de mal en pis, et c'était le désordre, les gens ne respectaient pas les lois. Alors, un homme d'affaires dans la ville de New York a décidé de commencer une toute petite réunion de prière dans la ville de New York. Une toute petite réunion. Imaginez, il y avait 5 à 6 personnes qui se réunissaient régulièrement chaque semaine pour prier et demander à Dieu de faire un réveil dans la ville de New York. 5 à 6 personnes. En l'espace de 6 mois, plus de 10 000 personnes chrétiennes, des chrétiens qui ont commencé à prier avec eux autres, un peu partout dans la ville de New York. Ça a commencé un mouvement de prière. Et savez-vous ce qui s'est passé? Plus de 50 000 personnes se sont converties en l'espace de 6 mois et on raconte, les experts de l'histoire de l'Église racontent que dans ce mouvement de réveil, plus de 1 million de personnes s'est tournées vers Jésus-Christ et sont devenues des enfants de Dieu. Pouvez-vous imaginer ça? Et ça a commencé quoi? Avec une poignée de main de chrétiens, 5 à 6 chrétiens qui se réunissaient chaque semaine pour prier. C'est phénoménal. Mes amis, on a besoin de nous unir dans la prière si on veut voir Dieu agir avec puissance dans notre ville, dans toute notre région. Si on veut voir Dieu renverser nos familles, changer nos familles, toucher nos enfants afin qu'ils viennent au Seigneur. Faire un impact dans notre travail, dans notre milieu, dans notre voisinage. Un auteur a défini le réveil ainsi, il a dit, « Un réveil, c'est un mouvement extraordinaire du Saint-Esprit qui produit des résultats extraordinaires. » Un autre définit le réveil ainsi, il dit, « Un réveil spirituel, c'est une communauté qui est saturée de Dieu. » Tozer définit le réveil en disant, « C'est ce qui change le climat moral de la communauté. » Nous voulons voir le cancer qui range notre société, ce cancer moral changer et guérir. Mes chers amis, c'est en nous unissant dans la prière, en intercédant puis en demandant à Dieu de faire un réveil ici dans la région. La meilleure définition que j'ai entendue, que j'ai lue, c'est par Greg Laurie, un pasteur aux États-Unis de l'église d'Harvest. Il a dit ceci, ah, j'aime tellement ça. Il dit, un réveil, c'est une invasion du ciel. Amen. Une invasion du ciel. Bon sang, c'est ça qu'on veut voir ici, dans toute la région. Le réveil spirituel, c'est lorsque Dieu travaille. Puis tu peux pas expliquer exactement ce qui se passe. C'est phénoménal. Mais il y a des gens qui viennent à l'Église, se convertissent, des familles qui reviennent au Seigneur. Et Dieu fait une œuvre extraordinaire. On ne sait pas comment expliquer le réveil, mais une chose est sûre, et c'est ce que les experts en histoire de l'Église ont dénoté. Ils arrivent tous à la même conclusion, que ce que l'on voit dans ces gros mouvements de réveil spirituel, c'est qu'à quelque part, il y a des chrétiens qui s'unissent ensemble pour prier. Ça va de pair, ça va ensemble. Les chrétiens prient, et en même temps, il y a quelque chose qui se passe où Dieu fait une invasion et fait un réveil spirituel dans la ville. Nous voulons voir notre pays guérir du cancer moral qui le ronge. Dieu donne la prescription pour ça dans 2 Chroniques. Nous lisons dans 2 Chroniques 7, 14 qui suit. Il dit, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. » Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie et prie, s'il se détourne de ses péchés, si on demande à Dieu, vraiment, on intercède et on demande à Dieu de faire un réveil spirituel, de changer notre nation, notre pays, il va le faire. Si on prie, nous avons besoin de prier, prier pour notre pays, notre province, notre région, nos familles, et Dieu va faire des miracles. I.M. Barnes dit ceci, il dit, « Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui n'est pas plus de techniques ou de meilleurs outils, plus de nouvelles organisations, de nouvelles méthodes, mais des personnes dont le Saint-Esprit puisse se servir. Des femmes et des hommes de prière, puissants dans la prière. C'est ça qu'on a besoin, bien-aimés. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde avec vous une réunion de prière qui a eu lieu au 1er siècle. Parce que voyez-vous, la persécution faisait rage. Et comme aujourd'hui, il y a beaucoup de persécutions aujourd'hui. Nous lisons un rapport qui vient d'être soumis par Porte Ouverte. Je ne sais pas si vous avez lu ça dernièrement. Et l'en-tête de ce rapport disait ceci. 2015, année la plus meurtrière des chrétiens. Écoutez bien ceci. En 2014, le ministère Porte Ouverte a dit que 2014 fut la pire année pour les persécutions des chrétiens. Mais dernièrement, lors de la présentation de son compte-rendu du rapport annuel, on nous informe que 2015 a surpassé 2014. C'est donc un nouveau record de persécution dans le monde. Voici ce que déclare le président de Porte Ouverte, David Currie, lors d'une conférence de presse. Il dit ceci. Il dit, le rapport 2015 pour le monde fait apparaître une escalade de violence contre les chrétiens sans précédent, ce qui en fait l'année la plus mortelle et la plus violente de l'histoire récente. Nos travaux ont permis de constater qu'après une année brutale pour les chrétiens en 2014, 2015 s'avère encore pire. Les persécutions se sont encore aggravées et se sont intensifiées un peu partout dans le monde. On peut comprendre les paroles de l'apôtre Paul qui dit « Priez pour tous les saints ». Nous avons besoin de prier pour tous ceux qui souffrent à travers le monde des persécutions. Mais nous avons besoin de prier que Dieu fasse une intervention et touche les cœurs. Quand on arrive au chapitre 12 du livre des Actes, la persécution fait rage. Jacques a été tué parce qu'il partageait l'Évangile et Pierre vient de se faire mettre en prison. Alors les chrétiens vont se réunir et prier pour Pierre. À ce point-ci, Luc, qui est l'auteur du livre, Luc a écrit deux livres. Vous avez l'Évangile de Luc et vous avez le livre des Actes. À ce point-ci, dans le livre des Actes, quand on arrive au chapitre 12 du livre des Actes, Luc va nous montrer comment l'Évangile est en train de se propager en dehors de Jérusalem. L'Évangile s'est propagé au nord, dans l'ouest, et tranquillement est en train de se propager vers les non-juifs. Alors, le chapitre 12 est clé, puis il est très important pour chacun d'entre nous. Très, très, très important. Car il nous montre que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle, même si toutes les circonstances autour disent le contraire. Parce que dans le chapitre 2, tu vas voir deux choses. Tu vas voir d'abord Jacques qui se fait tuer par l'épée, et deuxièmement, tu vas voir Pierre se faire jeter en prison. Quand tu regardes les circonstances, tu regardes ta vie, tu regardes ce qui se passe, si tu te fies à ce que tu vois et aux circonstances, parfois tu arrives à la conclusion, coudonc, où est Dieu dans tout ça? Dieu ne semble pas au contrôle. Et voyez-vous, les chrétiens avaient besoin d'un rappel divin que Dieu leur dise, « Écoute, je suis encore au contrôle. » Ça ne paraît pas, tu regardes les circonstances, mais je suis au contrôle. C'est moi qui décide. Je sais exactement ce que je fais. Acte 12 est donc un contrôle, un rappel plutôt. C'est un rappel que Dieu est au contrôle. Maintenant, les nouveaux cellulaires ont des rappels. Moi, j'aime vraiment ça. Vous savez, autrefois, ma femme me demandait d'aller au métro, à l'épicerie, puis elle dit, « OK, tu veux-tu... oublie pas d'acheter du lait, d'acheter ci, des œufs, etc., etc. » Bon, puis elle disait, « Tu devrais écrire ça sur un papier. » « Non, 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 c'est correct, je vais m'en souvenir. Hein? » Je vais m'en souvenir. Ma femme a bien l'expérience maintenant, ça fait quelques années qu'on est mariés. Fait qu'elle sait maintenant, elle me donne un bout de papier. Elle dit, « Tiens, t'as ça. » OK, ça marche. Fait que même, elle s'en va maintenant faire la commande ou faire l'épicerie elle-même, c'est elle, parce qu'elle me fait, elle n'est pas sûre. J'ai oublié quelque chose. J'arrivais à l'épicerie, puis là, j'étais t'étais quoi déjà? C'est quoi? Fait que là, maintenant, les cellulaires ont un rappel. Je ne sais pas si vous avez ça, vous autres, dans votre cellulaire. C'est fantastique. Hey, c'est merveilleux. Tu as deux options. Cellulaires ont ça maintenant, les téléphones intelligents. Un petit rappel. Tu as deux options. Première option, tu dis, OK, je vais me souvenir d'acheter des clous quand je vais aller à Rona. D'accord? Maintenant, je sais que mardi matin, je vais être dans le coin, j'aimerais ça arrêter pendant que je suis ici à Rona, en revenant du bureau, puis aller acheter des clous. Donc, j'écris première option, OK, mardi, midi, lance-moi un rappel. Et là, comme de fait, mardi, midi, pouf, il y a une fenêtre qui s'ouvre, puis ça dit, achète des clous chez Rona. L'autre option, c'est avec le GPS ou le satellite, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça fonctionne, c'est géographique. En d'autres mots, ça dit, quand tu vas rentrer chez Rona, le satellite à quelque part va dénoter, « Oh, tu es rendu dans le magasin Rona. Je vais t'envoyer une petite fenêtre, un petit rappel pour te dire, achète des clous. » C'est tellement puissant, cette affaire-là, que maintenant, je pars sur Saint-René, et si je me suis mis une note pour d'acheter des clous chez Rona, eh bien, elle reconnaît que je suis à côté de la bâtisse de Rona. Poup! Il y a une fenêtre qui sort de mon cellulaire qui me dit, « Hey, va chez Rona à côté, là. T'es là, là. Arrête. Aïe, aïe, wow! » Eh bien, acte 12 est un rappel de Dieu. Il t'envoie un rappel, une fenêtre qui s'ouvre, qui dit, « Hey, rappelle-toi, je suis au contrôle. Je veux que tu te rappelles que je suis au contrôle. » Ça paraît pas. Tu regardes les circonstances autour. Tu regardes Jacques qui s'est fait tuer. Tu regardes Pierre qui s'est fait mettre en prison. Je veux que tu te souviennes que je suis au contrôle. Donc, acte 12 et cette pop-up, cette fenêtre qui sort du livre des actes et nous rappelle, « Hey, je suis encore au contrôle. » Et mes chers amis, c'est ça qu'on a besoin. Parce que parfois, on regarde les circonstances puis ça va vraiment pas bien. Puis là, tu te demandes, où est Dieu dans tout ça? Et là, t'es découragé, t'es écrasé, t'as le goût de lancer la serviette. Dieu t'envoie acte chapitre 12 qui te rappelle, non, je suis au contrôle. Tout semble aller mal et tout va mal, mais souviens-toi, je suis au contrôle. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin, c'est tellement clé ce chapitre, acte chapitre 12, autant pour eux, ces chrétiens qui venaient de voir que Jacques s'était fait tuer par l'épée et que maintenant Pierre est en prison, eux autres aussi avaient besoin de ce rappel du ciel que Dieu est encore au contrôle. Alors, on va lire seulement 5 versets, si vous voulez bien, pour commencer, puis on va continuer plus tard. Mais juste 5 versets dans acte 12, et on va lire les 5 premiers versets du chapitre. D'accord? Acte 12, 1 à 5. Vous n'avez pas besoin de lire après ça, là, puis... vous pouvez arrêter au verset 5, on va retourner au passage et on va le lire. Tu sais que ça, des fois, hein, tu vas aller plus vite. Suivez-moi, vous allez voir. D'accord? Parce que j'aimerais ça donner quelques commentaires en lisant. Donc, on va lire verset 1, chapitre 12. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Alors, on a tout d'abord, dans ces 5 premiers versets-là, on a la persécution et l'arrestation de Pierre. Maintenant, le passage commence en nous donnant le record du second martyr, qui est Jacques. En fait, c'est le premier martyr apôtre, mais c'est le second martyr dans l'histoire du livre des Actes. Le premier martyr étant, dans le chapitre précédent, Étienne. Ça commence en disant au verset 1, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les chrétiens, les membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et quand il vit que ça plaisait aux Juifs, bon sang, il a continué. Il a arrêté Pierre. Voyez-vous, la pression s'intensifie à ce point-ci chez les chrétiens. Parce que avant, la persécution venait des Juifs, des chefs religieux juifs. Maintenant, c'est rendu politique, c'est rendu à Hérode. Et Luc donne un détail. Il dit que Jacques s'est fait tuer, pas n'importe comment, il explique comment il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer par une épée. Et ça, c'est un détail important. Parce que voyez-vous, ce que nous apprenons dans la littérature juive et aussi dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, c'est que tu prenais l'épée pour exécuter quelqu'un lorsque tu accusais quelqu'un d'avoir ce qu'on appelle un apostat, d'essayer d'induire les Juifs loin de Dieu et les emmener à l'idolâtrie. Tu prenais l'épée à ce moment-là. Donc, les chrétiens sont accusés, finalement, d'être dans une secte qui va écarter les gens loin du judaïsme. Et c'est pour ça qu'on prend l'épée ici. Exécuter les leaders de l'Église, c'est vraiment une façon très réfléchie et délibérée, c'est systématique. Tu élimines le leadership de l'Église, et donc tranquillement, ça va bousculer l'Assemblée. Et Hérode en profite parce qu'il réalise que les gens aiment ça. Donc, il veut faire du capital politique sur le dos des chrétiens. Il veut mousser sa popularité. Maintenant, regardez comment Pierre est gardé. Mon ami, il est dans une prison, mais c'est le maximum, là. Quatre équipes de quatre gardes qui font la rotation. D'accord? Donc, quatre chiffres. De 3 heures, 24 heures sur 24, Pierre est gardé. Donc, il y a deux gardes avec lui, deux gardes à la porte. 24 heures sur 24. En d'autres mots, 16 personnes sont affectées, 16 soldats romains, 16 soldats sont affectés à garder Pierre. Et c'est vraiment incroyable. Non seulement ça, on apprend un peu plus loin, ce qui était tout à fait inhabituel, parce que tu ne faisais pas à l'époque, tu ne faisais pas ça. On apprend un peu plus loin qu'il y a deux chaînes. Donc, Pierre, et non seulement il y a deux gardes à la porte, mais il y a deux gardes à côté de lui, mais en plus, il y a deux chaînes. En d'autres mots, à droite, il y a une chaîne envers un garde. À gauche, il y a une autre chaîne, une deuxième chaîne envers l'autre soldat. Ça se faisait pas, ça. La littérature de l'époque nous montre que tu mettais juste une chaîne. À la limite, tu mettais une chaîne. Pas toujours, mais à la limite, tu en mettais une. Pierre, ils ont doublé les chaînes. Tout un effectif. 16 gardes. Et attaché à deux soldats. Pourquoi? Bien, rappelez-vous ce qui s'est passé, c'est que Pierre avait la réputation de fuir les prisons. Rappelez-vous ce qui est passé quelques chapitres avant, hein, où Pierre se fait jeter en prison et un ange vient en plein milieu de la nuit, le sort de la prison puis est libéré. Eux autres comprennent pas ça, ils savent pas que c'est un ange, ils ont aucune espèce d'idée de ce qui s'est passé. Mais là, Pierre était libre. Alors, cette fois-ci, ils ont dit, on le laisse pas sortir. Ils ont mis le paquet. 16 soldats affectés, 24 heures sur 24, 4 soldats, 2 à la porte, 2 enchaînés, il est vraiment mal pris. Là. Vrai? Hey, rien n'est impossible à Dieu. T'as la garnison, t'as toutes les... écoute, hey, c'est ça la scène, là. C'est ça la situation. Mais là, maintenant, mets-toi dans les souliers des chrétiens qui sont là, qui vont prier pour Pierre. Ils ont vu Jacques se faire tuer. Et maintenant, Pierre est en prison. Puis regardez comment il est sous garde. Incroyable. Maintenant, on apprend qu'Hérode va en profiter pour faire du capital politique. Avez-vous remarqué que c'est la fête des pains sans levain, puis il va le faire. Il veut les emmener, l'expression, c'est le donner à la foule. En d'autres mots, il n'y aura pas de procès, on va le tuer, on va l'exécuter. Et il attend juste après Pâques. Pourquoi Pâques? Parce que c'est la plus grosse fête religieuse en Israël. Il y avait 3 fêtes annuelles qui nécessitaient que tu te déplaces de où tu demeures. Si tu demeures dans le nord, dans les Laurentides et tout ça, tu te déplaçais, tu venais. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'était le temple. Donc, il attend pour voir la foule des milliers de pèlerins venaient pour cette semaine, pour une semaine de la fête de Pâques. Et Hérode choisit ce moment-là pour justement, juste après Pâques, le lendemain de Pâques, il va sortir Pierre, il va faire du capital politique, puis il va exécuter Pierre devant tout le monde, puis ça va être la folie. Hérode dit, « Hey, mon ami, moi je vais avoir la gloire, tout le monde va m'aimer, les Juifs vont m'aimer. » C'est ça qu'il est en train de faire, voici la situation. Comment tu combats ça? Qu'est-ce que tu fais? Voici une situation désespérée aux yeux des gens. Pierre est gardé, 4 soldats, puis est enchaîné. Qu'est-ce qu'ils font, les chrétiens? Ils prient. Ils prient. Et ce qu'on va voir dans ce chapitre-là, c'est que l'Église, écoutez bien ceci, l'Église a prié et tout a changé. D'accord? Retenez ça, là. Il y a un message dans tout le chapitre 12, c'est que l'Église a prié et tout a changé. D'accord? L'Église a prié, tout a changé. Rappelez ça et regardez bien ce qui va se produire tranquillement dans le chapitre 12 à mesure qu'on va avancer dans le chapitre. Verset 5 dit, « Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. » Voici une situation désespérée. Mais l'Église priait. L'Église n'a pas sorti des épées pour aller se battre contre les soldats. Ils auraient perdu de toute façon. C'était des experts. Ils étaient entraînés. Les soldats étaient entraînés. Mais ils ont sorti l'arme la plus puissante pour renverser les forteresses. C'est l'arme secrète du chrétien et c'est la prière. Toutes les portes de la prison étaient verrouillées, étaient fermées, sauf une. La porte de la prière qui te conduit dans la présence même de Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas aller à Pierre, ils sont allés à Dieu. Malheureusement, c'est parfois la dernière porte où l'on va. Mais ça devrait être la première, la prière. Et c'est ce que l'Église a fait. Ils ont prié Dieu, ils ont intercédé pour Pierre. Quelqu'un a dit, « Le diable tremble lorsqu'il voit le chrétien le plus faible se mettre à genoux. » La dernière chose que le diable veut voir, c'est un chrétien qui prie. L'Église a prié et tout a changé. C'est donc une prière conquérante. En analysant leur prière, on apprend que la prière conquérante est premièrement offerte au nom de Jésus-Christ. Parce qu'oublions pas, ce sont des chrétiens, des enfants de Dieu, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui ont suivi Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus avait dit. Il avait dit dans Jean 16, 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Voyez-vous, la prière conquérante est celle qui est faite au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, ça, au nom de Jésus-Christ? Ça veut dire que nous venons dans la présence de Dieu avec assurance, parce que Jésus-Christ s'est offert à la croix pour nous. Il a payé toute la culpabilité des conséquences de notre péché. Il a pris ça sur lui à la croix. C'est donc grâce et au mérite sur la base du sacrifice de Jésus-Christ que j'entre avec assurance dans la présence de Dieu. C'est ça, prier au nom de Jésus. C'est prier, je prie Dieu parce que à cause de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Deuxièmement, la prière conquérante est celle qui est offerte avec persévérance. Avez-vous vu le mot employé ici au verset 5? L'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. C'est le même mot qu'on va retrouver dans le jardin de Gethsémané où Jésus est en train de prier. Il prie, puis on lit, il priait ardemment le Seigneur. C'est une prière qui est faite avec persévérance. Elle ne lâche pas. En d'autres mots, elle ne cesse pas de prier parce que Dieu ne semble pas exaucer notre prière. Elle va continuer à prier et elle persévère dans la prière. Maintenant, Luc met beaucoup d'accent sur la prière. On va voir les chrétiens prier au chapitre 4, au chapitre 10, au chapitre 12, au chapitre 13, au chapitre 21. Il veut montrer les chrétiens en train de prier. Il veut montrer comment la prière, c'est important, c'est vital, c'est majeur. Et en passant, quand tu regardes les dates, la description de ce qui se passe, tu t'aperçois que ça a pris quand même plusieurs jours avant que Dieu réponde à leur prière. Verset 3, on voit Pierre qui entre en prison pendant la fête des pains sans levain. Verset 4, on apprend qu'Hérode voulait le faire comparaître après la fête. Et verset 6 dit, OK, c'est la veille du moment où Pierre devait être présenté, la veille. Donc, il y a plusieurs jours qui s'écoulent. Alors, les chrétiens ont continué de prier pendant plusieurs jours. Et c'est ça la prière. Il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas lancer la serviette. Les chrétiens ont continué de prier. Ils ne sont pas relâchés. Et c'est ça la prière conquérante. Que même lorsque tu regardes autour de toi, puis Dieu ne semble pas exaucer, comme tu l'entends, comme tu le veux, comme tu as prié, ne te relâche pas. Continue à prier. Persévère. Et qu'est-ce qui est arrivé avec ces chrétiens qui ont prié Dieu, qui ont intercédé pour Pierre? On regarde la suite, on voit l'exaucement de leur prière au verset 6. Ça dit, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Avez-vous déjà remarqué une affaire, comment Dieu répond parfois à la dernière minute? Femme d'expérience. Toujours. On a l'impression vraiment que Dieu attend toujours à la dernière minute avant d'exaucer nos prières. Puis c'est ça qu'il a fait ici, en tout cas, juste la veille. Pierre reste en prison tout le long. Puis, mon ami, c'est parce que les chrétiens priaient, puis Dieu n'exauçait pas tout de suite. Attendu la dernière minute, dernière minute, juste la veille, avant de répondre. Juste la veille. Alors, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, attaché à ses deux chaînes, dormait entre deux soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, verset 7, un ange du Seigneur survient et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, « Lève-toi vite. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » En d'autres mots, habille-toi. Et c'est ce qu'il a fait. L'ange lui dit encore, « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit sans savoir ce que l'ange faisait, que ce que l'ange faisait était réel. En d'autres mots, lui pensait là, que c'était une vision. Là. Il n'y avait aucune espèce d'idée, mon ami. Tu sais, tu te réveilles en plein milieu de la nuit, là, quelqu'un te réveille, te part, te brasse, puis oh, dépêche-toi, mets ton manteau. Oh, OK, ça marche. T'es comme dans un état un peu. Pierre est là, fait que. Verset 9. Pierre sortit, le suivit. Il sort là, il suit l'ange, sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde. Pierre suit, il marche. Et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Hey, mon ami! Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et vous savez ce que j'aime, moi? Ah, j'aime tellement ça. Avez-vous remarqué l'ordre que Dieu a donné à son ange? L'ordre aurait pu être, envoie l'ange dans la prison, dans la cellule, puis dit, hey, réveille-toi, Pierre. Réveille-toi, là. Regarde, les portes sont ouvertes. Va-t'en. Pantoute. L'ange est resté avec lui du début et il continue. Il l'emmène avec lui dehors, marche, prend une marche avec lui un certain temps, puis à quelque part, quand il était assez loin, l'ange disparaît. Voyez-vous l'attention de Dieu? Voyez-vous comment Dieu est? On a besoin de réaliser ça, les amis. On a besoin de connaître qui est Dieu, comment il t'aime, comment il prend soin des détails pour toi. Est-ce que Dieu est au contrôle? Parfaitement au contrôle. Et Dieu est attentionné. Alors, ils sortirent, s'avancèrent dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Dieu a répondu à leur prière. Mais il a attendu la dernière minute avant de répondre. Dieu aurait pu répondre à leur prière le premier soir, hein? C'est pas ce qu'il a fait. Dieu sait exactement quel est le meilleur moment de répondre. Et parfois, oui, il va répondre non. Parfois, il va répondre oui. Parfois, il va répondre à temps. Mais là, je sais ce qui se passe. Là, vous avez une question dans votre tête. Là, il y a quelque chose qui va se passer parce qu'il y a quelque chose. Vous vous posez la question, oui, mais normalement, Jacques est quand même mort. Hein? Jacques est mort. OK? Alors, regarde bien. Et ça, c'est très, très important qu'on réalise ça. Là. Dans ce passage-là, Dieu est en train de montrer que rien n'est impossible à Dieu. D'accord? Absolument rien. Voici le raisonnement. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire la même chose avec Jacques? Il ne l'a pas fait. Donc, Dieu est capable de le faire. Oh, mais c'est parce que peut-être que Jacques n'était pas aussi spirituel? Absolument pas. Deux hommes de Dieu. Deux hommes de Dieu. D'accord? Aussi consacrés l'un que l'autre. Voici le raisonnement et voici pourquoi acte 12 est si important et pourquoi ce n'est pas par hasard que les deux sont dans le même chapitre, que Jacques se fait tuer par l'épée et que Pierre se fait délivrer miraculeusement. C'est que Dieu veut nous rappeler, écoute, je suis encore au contrôle. Parfois, dans ma souveraineté, je vais permettre qu'un Jacques meure. Mais je veux que tu te rappelles, ce n'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que tu n'es pas assez bon, c'est dans mon plan. On ne comprend pas pourquoi, nous, on ne comprend pas. Mais je suis capable d'accepter ça. Capable d'accepter que dans le plan souverain de Dieu, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et ça, c'est le raisonnement que Jésus a donné aux disciples et que les disciples avaient besoin d'entendre dans le jardin de Gethsémani. Rappelez-vous bien ce qui s'est passé lorsque les gardes sont venus pour arrêter Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un disciple a fait? Il a sorti l'épée, il a arraché l'oreille d'un garde. Et là, Jésus l'arrête et lui dit, « Tu penses pas que j'aurais pu faire appel à Dieu et faire descendre 12 légions d'anges pour me protéger. Vois-tu le raisonnement? Mais c'était dans son plan de ne pas le faire parce que Dieu savait qu'il était nécessaire, Jésus savait qu'il était nécessaire qu'il aille jusqu'à la croix pour payer pour nos péchés. Alors, le raisonnement que nous devons avoir et que l'acte 12 nous enseigne est celui-ci. Si Dieu a la puissance de délivrer un Pierre qui est gardé comme aucun autre prisonnier, c'est une grosse garde, il est au maximum, un pénitencier gardé, et que les soldats qui le gardent, s'ils laissent s'échapper, vont se faire tuer, et c'est ce qui arrive plus tard. Si Dieu délivre miraculeusement et est capable de délivrer un Pierre, il aurait aussi été capable de délivrer, de la même façon, un Jacques. Mais il ne le fait pas. C'est dans son plan. J'accepte ça. Il me montre ici qu'il est au contrôle et qu'il peut le faire. D'accord? Il y a des gens qui me disent, « Oui, mais c'est parce que peut-être les premiers chrétiens qui priaient dans le temps de Jacques, eux autres manquaient de foi. » Moi, j'entends ça des fois. J'ai entendu ça, moi, il n'y a pas tellement longtemps, quelqu'un me dit, écoute, si un tel n'est pas guéri, c'est parce qu'il manque de foi. S'il priait, puis il avait la foi, puis il croyait, là, croyait vraiment en Dieu, là, il serait guéri. Moi, je ne crois pas à ça, absolument pas. Paul avait un paquet de dons, il avait un don de guérison. Il aurait pu comme, guéri. En fait, c'était là, hein, c'est dans l'œil, il y avait des problèmes avec l'œil. Fait que, il aurait pu guérir. Non, Dieu dit non. Alors, Paul a prié pour guérir, il n'a pas guéri. Il a prié une deuxième fois, il n'a pas guéri. Il a prié une troisième fois, il n'a pas guéri. Il dit, arrête de prier. Dieu lui a dit, arrête de prier. Je te dis, c'est dans mon plan, tu as besoin d'être ça. Tu vas être plus puissant, plus efficace si tu gardes ta maladie. Maintenant, pas juste ça. Regarde la foi de ces gens-là. Est-ce que c'était des chrétiens qui étaient tellement là, l'élite spirituelle de Jérusalem? Là? Eux autres, là, ils l'ont l'affaire. Eux autres, ça c'était comme... C'est parce qu'eux autres, ils ont tellement de foi, eux autres sont différents. Moi, j'ai pas beaucoup de foi, je suis tellement faible. Mais eux autres, ils avaient de la foi. C'est pour ça que Dieu a répondu. Ah oui? Laisse-moi te montrer la foi de ces gens-là. Je vais te montrer ça. Alors, voici ce qui arrive. C'est que Pierre sort, finalement. D'accord? Pierre sort. Il est dans la rue. Il se réveille. En plein milieu de la rue. Là, il commence à réfléchir. Il se réveille. Verset 12. Il dit, après avoir réfléchi, il dit, hey, coudonc, c'est pas juste une vision. Je suis pas juste en train de rêver. C'est vrai. Il est sorti en plein milieu de la rue. En plein milieu du boulevard. Alors, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, parce qu'il savait qu'il y avait une réunion de prière là. Alors, la mère de Jean, surnommée Marthe, qui réunissait là régulièrement, où beaucoup de personnes étaient réunies priaient. Alors, ils sont en train de prier. Ils sont en train de demander à Dieu que Dieu fasse une délivrance miraculeuse, qu'il fasse de quoi? Il intercède pour Pierre. D'accord? Dieu avait déjà exaucé la prière, mais les autres ne savent pas. Aucune espèce d'idée. Alors, nous lisons verset 13. Il frappe à la porte. Alors, tu as Pierre dehors, il frappe à la porte. Il est rendu là. Maintenant, la servante qui s'appelle Rod s'approche pour écouter. Elle reconnaît la voix de Pierre. Ah, elle dit, regarde, c'est Pierre. Ah, oh, wow! Elle est toute excitée. Hey, wow! Elle se retourne d'abord, elle court voir les disciples. Elle dit, hey, Pierre est dehors! Pierre est dehors! Hey! Qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Oh, alléluia! Merci! On savait que Dieu était pour exaucer. On savait, Dieu est tellement puissant. Est-ce que c'est ça que les disciples ont fait? Ils ont fait, mais oui, non. Mais oui, non, t'es une folle, toi. Oui, oui, si Pierre serait dehors, en arrière de la porte. Hey, écoute, ça fait une semaine, t'es en train de prier pour ça. Mais oui, non. Et là, tout d'un coup, il y a un petit réveil spirituel dans leur vie. Leur foi monte d'un cran. Ben non, c'est un ange. C'est un ange, c'est son ange. Vous savez, les Juifs croyaient qu'il y avait des anges gardiens. On a des anges gardiens. C'est son ange. Ta porte. Chers amis, ça fait une semaine, tu pries. Dieu exauce. Puis tu crois pas. Alors, qu'est-ce que ça laisse entendre? Ça laisse entendre, dans le fond, il y avait des doutes. Il croyait pas fort que Dieu était pour les délivrer. Peut-être qu'il priait finalement pour que Dieu donne du courage à Pierre, qu'il puisse peut-être évangéliser dans la cellule, emmène quelques personnes au Seigneur dans la cellule. C'est pas fort. Il n'y a pas beaucoup de foi. On s'entend? Je pense qu'on s'entend. Unanime là-dessus, pas beaucoup de débats. Bon, on sent que ça me fait du bien. Parce que qu'est-ce que ça me dit? C'est que j'ai pas besoin d'être parfait, d'avoir une foi parfaite, puis avoir une foi grosse de même pour que Dieu exauce mes prières. Est-ce que j'entends des « Amen »? Hein? Dieu est tellement grand, gracieux, miséricorde, il est tellement plein d'amour pour nous autres que il passe par-dessus ça. Parce que vois-tu, c'est pas la quantité de foi que tu as, mais la personne sur qui tu places ta foi. Puis ça, c'est du solide, c'est Jésus-Christ. Amen. Quel bon rappel. Avez-vous remarqué un dernier détail? La prière conquérante. Leur prière se fait ensemble. Ils étaient plusieurs personnes, puis ils étaient réunis ensemble. Lorsque l'Église s'unit pour prier, c'est très puissant. Regardez bien le début de l'histoire, chapitre 12, ça commence. Hérode, il est redoutable, il pourchasse et persécute les chrétiens. Puis à la fin du chapitre 12, un ange, Dieu envoie son ange et tue Hérode. C'est fort. Hérode meurt. Puis un historien, Flavius Joseph, dit que sa maladie a duré à peu près 5 jours. Donc, il a souffert pendant 5 jours. Il est mort. Alors, ce Hérode, si puissant, qui fait peur à tous les chrétiens, finit rongé par des vers. On ne se moque pas de Dieu. Vrai? On ne se moque pas de Dieu. Alors, Hérode commence grand, finit petit. Qu'est-ce que ça nous dit, ça nous autres? L'Église a prié et tout a changé. Chers amis, moi, ce que j'aimerais entendre un jour, c'est des gens dire dans la ville, « Ah, bon sang, l'Église de Sentier a prié et tout a changé. » Hein? Vois-tu, la semaine prochaine, on va commencer Libération 21. C'est un mouvement de prière. On a besoin ensemble de s'unir, de nous unir et prier un 21 jours de prière. Ce que nous voulons faire, on va avoir certaines activités, un sommet de prière, on va avoir des études bibliques chaque semaine, des groupes maison, et on va avoir un cadran de prière. J'aimerais vous encourager. Un 24 heures de prière. Regardez bien ce que c'est. C'est que vous allez sortir tantôt et il va y avoir un gros cadran, puis il y a des petits espaces de 15 minutes par jour. Engagez-vous. Ça va être le 24 heures commence le 28 février jusqu'au 6. Et c'est dans cette semaine-là, vous prenez un engagement de prier 15 minutes par jour, toujours à la même heure, mettons que c'est midi à 15. Chaque jour, vous prenez cet engagement-là pendant 16 jours de prier. Et ce qu'on veut, c'est remplir le cadran de 24 heures des chrétiens qui sont en train de prier pendant 15 minutes. Imaginez, il va y avoir des chrétiens qui vont prier Dieu pour un réveil dans la région, un réveil dans nos familles, 24 heures sur 24 pendant 16 jours. On a besoin de vous pour ça. Engagez-vous, allez remplir le cadran, prenez un petit 15 minutes. Chaque jour, vous connaissez l'heure de votre break, vous savez quand vous allez pouvoir faire ça. Et engagez-vous. Et on va voir Dieu faire des merveilles. Amen. J'aimerais terminer avec ce chant. Je ne vais pas chanter, mais je vais vous lire. Nous avons soif de ta présence. C'est ça que ça s'intitule. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit. Viens, souffle sur nos vies. Embrase nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à discerner ta volonté. Viens, viens, Esprit de Dieu. Nous t'invitons. Reviens-nous. Remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit. Viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à toujours plus te rassembler. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit. Viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes chanter ensemble Jésus est Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, c'est tellement notre souhait, notre désir de voir la multitude venir à Jésus-Christ. Et l'histoire a démontré que tu l'as déjà fait. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nous te prions, nous intercédons, nous te supplions de faire ton œuvre miraculeuse dans notre région. Oui, comme on a entendu parler, dans ces villes de New York et un peu partout, même présentement, en Afrique, en Chine, en Amérique latine, où des milliers de personnes viennent à toi tous les jours, à toutes les heures, Seigneur. Merci pour cette œuvre que tu fais à travers le monde. Nous te prions maintenant que tu accomplisses un réveil parmi nous. Pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.